Il est 19h30 à Paris, 17h30 en temps universel. Vous écoutez Radio France Internationale.
Le débat du jour. Diane Berger.
C'est une thématique qui revient régulièrement en France. À chaque épisode de violence dans l'espace public, qu'il s'agisse d'une manifestation agitée, de heurts après la victoire du PSG en Ligue des Champions, ou alors de tensions dans les rues après une altercation entre des jeunes et des policiers, une large partie de la classe politique multiplie alors les propositions pour durcir le maintien de l'ordre et les sanctions, souvent dans la continuité de mesures déjà prises les années précédentes. Une surenchère qui pose question, cette stratégie porte-t-elle ses fruits? Une autre voie est-elle seulement possible? Peut-on sortir du tout répressif? C'est le thème du débat du jour avec nos deux invités. Michel Kokorev, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur des universités à Paris 8, spécialiste des quartiers populaires, des émeutes et de la contestation. Vous êtes auteur notamment du livre Émeute, publié cette année aux éditions Anna Moza. Et puis nous sommes aussi avec Thierry Clerc, bonjour.
Bonsoir.
Oui, bonsoir. C'est vrai qu'il est l'heure de se dire bonsoir plutôt. Il fait encore jour, mais cela me... Voilà, bonsoir. Thierry Clerc, vous êtes secrétaire général du syndicat UNSA Police. Alors, avant de revenir plus en détail sur le système français dans son ensemble et ce qui pourrait éventuellement être modifié, Thierry Clerc, j'aimerais que l'on revienne sur un événement qui a malheureusement secoué l'actualité française en début de semaine et qui pose énormément de questions. La mort d'une surveillante de collège poignardée par un élève de son école. Cela après déjà une série de mesures pour limiter les violences à l'école. On fouille désormais les sacs régulièrement. Ce matin-là, les sacs étaient justement fouillés et les gendarmes étaient présents. On a du mal à voir ce qui pourrait être fait de plus. Est-ce que, enfin, on a parfois l'impression qu'avec toutes les mesures de sécurité imaginables, on n'a pas de risque zéro. Vous, en tant que policier, comment est-ce que vous vivez la situation ?
C'est vrai, comme vous l'avez dit, en fait, il n'y a pas de risque zéro, ça n'existe pas. Quoi qu'il en soit, dans cette circonstance, enfin, qui était celle de ce tragique, en tout cas, homicide, nous avions des gendarmes qui étaient présents pour justement effectuer des fouilles de sacs, et puis des personnels de l'établissement scolaire qui étaient également présents. On a eu affaire à un individu déterminé qui voulait passer à l'acte coûte que coûte. Après l'enquête, et le procureur a déjà fait une première déclaration, l'enquête va déterminer totalement les motivations réelles en fait de cet individu. En tout cas, c'est une affaire qui révèle que la violence est partout. Elle s'ajoute à d'autres événements qui se sont déjà passés, à une violence qui est récurrente notamment chez les jeunes, à des ports d'armes blanches en tout cas, ports d'armes notamment des couteaux, qui sont relativement récurrents. En 2024, rien que sur la région parisienne, en tout cas, on a eu 5600 saisies d'armes blanches, donc de personnes interpellées, porteurs d'armes prohibées. Et donc ça veut dire qu'il y a un réel sujet dans ce domaine-là.
Et il y a un sujet, et derrière, il y a aussi une pression. Est-ce que vous avez l'impression qu'on met une pression très forte sur les forces de l'ordre, les gendarmes comme les policiers, pour justement arriver à une forme de risque zéro qui, on le disait, est extrêmement difficile. Là, dans le cas de ce collège, on ne pouvait pas faire grand-chose de plus.
Là, en l'occurrence, c'est un événement dramatique. Après, il faudra voir les circonstances réelles, comment les choses se sont réellement passées. Mais c'est vrai que, quoi qu'il en soit, la sécurité est un thème qui est récurrent, et notamment de façon, je dirais, électorale, et qui est dans le débat public, en fait, depuis un certain nombre d'années. Par rapport à ça, la sécurité, c'est pas un problème de gauche, c'est pas un problème de droite. C'est un problème qui concerne l'ensemble des citoyens, l'ensemble des acteurs politiques, associatifs. Tout le monde est concerné par la sécurité. Et je veux dire, trouver des solutions, ça passe d'une part par des moyens. Moi, je suis policier, responsable syndical policier. Bien sûr, il y a des moyens matériels, mais il y a également des moyens législatifs. On a une procédure pénale qui est excessivement lourde aujourd'hui, sur laquelle nos collègues, perdent totalement confiance et sens dans leur métier. Parce que vous avez une procédure qui en fait pollue quasiment deux tiers du temps qui est passé sur la forme d'une procédure pour un tiers du temps seulement qui vous reste à explorer le fond d'une enquête, c'est-à-dire en fait la recherche de la vérité. Donc tout ça pour vous dire en fait que on est dans un système qui s'est complexifié au fil des années, des moyens qui ne sont pas suffisants. Et je veux dire, l'ensemble, en tout cas, des acteurs de la société qui sont concernés par la sécurité, parce que forcément, et bien sûr, la police, à elle seule, en tout cas, ne peut pas résoudre tous les problèmes.
Thierry Clerc a donc décrit un système complexe, assez lourd pour les policiers. Mais là, c'est donc côté policier. Michel Kokorev, vous, comment est-ce que vous qualifieriez le système de maintien de l'ordre en France? On a parfois l'impression, surtout quand on le compare à d'autres pays, aussi bien en termes de maintien de l'ordre, de politique publique, même de gestion des prisons, on a parfois l'impression d'être l'un des pays qui serre le plus la vis.
Bon, il y a un constat qui est clair, un diagnostic qui a été établi par des chercheurs, par des journalistes, par des militants, c'est que le maintien de l'ordre, hein, on ne parle pas de sécurité publique, mais, ni de police judiciaire, mais le maintien de l'ordre, manifestement, s'est durci au cours de ces dernières années. On a tous en mémoire la répression des Gilets jaunes qui a fait plus de 255 blessés graves, mais il y a eu d'autres illustrations de ce durcissement, au point où on peut parler d'une quasi-militarisation du maintien de l'ordre, qui se traduit notamment par l'utilisation d'armes de guerre. Cet état de fait, qui encore une fois bon, n'a pas une dimension polémique, mais est un fait, traduit une stratégie, ce qu'on peut appeler une stratégie d'escalade, vous avez parlé de surenchère, bon, qui caractérise quand même la société française. Et c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que cet état de fait, il n'est pas fatal. Nos voisins, finalement, ne sont pas plus bêtes que nous. Hein. Bon, enfin, même si en matière de maintien de l'ordre, parfois, on a tendance un peu à la ramener, mais les Allemands, par exemple, d'autres pays européens, il y a une enquête très intéressante sur 12 pays européens qui montre que la stratégie qui est adoptée par les forces de l'ordre européennes, c'est plutôt la stratégie de la désescalade. C'est-à-dire que c'est plutôt faire baisser le niveau de pression et de tension, c'est être dans une perspective plutôt de prévention des désordres, ou ce qu'on appelle la casse. C'est éventuellement favoriser le dialogue avec des intermédiaires. Bon. Et donc, ça place effectivement l'institution policière, ou on pourrait dire le maintien de l'ordre, la fameuse doctrine du maintien de l'ordre à la française, dans une situation un peu singulière. Bon. Alors, moi, je me permettrais d'ajouter que, pour moi, en tant que sociologue, la violence, ça n'existe pas. Il y a des formes de violence qui sont très différentes, selon qu'on parle de manifestations, selon qu'on parle de réactions populaires après la victoire d'une équipe, selon qu'on parle éventuellement d'émeutes dans les quartiers populaires. Tout ça, c'est pas du tout la même chose. Bon. Et il y a des formes de perception aussi de la violence qui sont très différentes. C'est-à-dire que, en gros, quand on est de classe moyenne, bon, quand on voit un policier, on se sent pas en insécurité. Bon, de la même manière, l'école, elle est là pour favoriser l'ascension sociale de nos enfants. Il n'y a pas de souci. Quand on est issu de milieux populaires, c'est pas du tout le sentiment qu'on a. On est plutôt en insécurité, quelle que soit sa couleur de peau ou sa religion. Donc on voit bien que d'un point de vue sociologique, il y a une perception qui est assez différente. Bon, il y a une hostilité, bon, qui n'est peut-être pas, qui est loin d'être générale, mais qui est quand même un peu fonction de la position qu'on occupe dans la société. Et peut-être j'ajouterais juste que il y a de la même manière qu'il y a des formes différentes de violence, ça me semble très important pour éviter les amalgames, qu'il y a des perceptions, des représentations différentes ou de la violence ou de la police. Bon, de la même manière, il y a des acteurs qui sont très différents. Bon, parfois, on a l'impression que, en fait, la violence du maintien de l'ordre, elle est liée à la radicalisation des manifestants et des militants. Mais quand même, est-ce qu'on peut comparer sérieusement des armes de guerre, des LBD, des grenades explosives, avec des projectiles qui sont jetés, des canettes, éventuellement des pierres ou des tirs de mortier. Il y a une asymétrie des acteurs en jeu qui est absolument fondamentale.
Et vous avez décrit une rupture justement entre les classes populaires et les forces de l'ordre, en tout cas une défiance qui existe dans une grande partie d'entre elles, aussi bien des deux côtés, hein, si on écoute bien ce que vous dites. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce que c'est quelque chose de récent ?
Alors bon, on fait avec les outils qu'on a et avec les thermomètres qu'on a. C'est vrai que l'opinion que la population peut avoir de la police, elle est mesurée depuis pas très longtemps, à ma connaissance depuis une vingtaine d'années, mais peut-être Thierry Clerc me contredira. Bon, et on voit bien que en fait, l'image qu'on a de la police, elle est fonction de l'âge. C'est-à-dire que les jeunes sont beaucoup plus méfiants, voire ont peur de la police, beaucoup plus que les vieux, bon, pour le dire rapidement, que l'opinion de la police, elle est fonction de la fréquentation, de l'exposition à la police. Et donc, on peut penser qu'effectivement, quand on a plus de 70 ans, je schématise un peu, mais on est moins en contact avec la police qu'on peut l'être quand on a 20 ans et que, par ailleurs, on habite dans des quartiers populaires. Bon. Mais moi, il me semble quand même que le problème, c'est un peu ça. C'est une méfiance, une hostilité que connaissent bien les policiers. Et du coup, la question question, c'est comment on rétablit de la confiance à l'image de certaines expériences qui ont pu être menées dans d'autres pays européens.
Et alors, on va revenir à ces expériences qui ont été menées dans d'autres pays, mais j'aimerais qu'on revienne un peu justement sur cette défiance qui existe et cette escalade des tensions. Est-ce que, en fait, il y a une question de poule et de l'œuf. Qu'est-ce qui est apparu en premier ? Est-ce que l'escalade des tensions répond à une hausse de la méfiance ou est-ce qu'il y a une hausse de la méfiance parce qu'il y a l'escalade des tensions selon vous ?
Ah bah ça se mélange, comme vous dites, c'est circulaire. Mais bon, quand on habite, je prends cet exemple qui est concret, qui parlera, je pense, à vos auditeurs et auditrices. Quand on habite dans des quartiers populaires, bon, et que on voit arriver des équipes, par exemple des brigades anticriminalité ou des équipes de sécurité publique, bon, qui contrôlent de façon rugueuse, bon, parce qu'on leur a appris qu'il fallait être rugueux, qui éventuellement tutoient facilement, qui peuvent avoir des gestes un peu humiliant. Pour reprendre le langage des jeunes, ça met un peu la haine. Bon, la prochaine fois qu'ils vont arriver, peut-être qu'il y aura un caillassage. Bon, ils se garderont bien en même temps de faire une remarque d'avoir un mot mauvais, parce qu'ils savent qu'ils sont exposés à rébellion et outrage, bon, qui peut être un motif d'interpellation quand le contrôle se passe mal. Bon, il y a Dominique Monjardet, qui est un sociologue historique de la police, disait que dans les années 70, la préconisation des officiers, c'était « et les gars, hein, et pas d'outrage, hein, déconnez pas ». Bon, aujourd'hui, quand on voit la courbe ascensionnelle des délits pour outrage et rébellion, bon, effectivement, on a l'impression que c'est un mode de régulation d'une relation qui est conflictuelle, qui est forcément conflictuelle avec notamment ces jeunes. Donc, cette expérience-là, bon, elle conduit éventuellement à plus d'agressivité, mais en même temps, elle conduit aussi à la peur des forces de l'ordre. Hein, bon,
qui et donc, vont... à une moindre confiance, le jour où on a un problème, on va moins les chercher.
Voilà,
si on a peur
donc
de...
c'est une sorte de cercle vicieux, en tout cas, de spirale illimitée.
Oui, Thierry Clerc, vous souhaitiez réagir.
Oui, parce que, en fait, si vous voulez, l'insécurité, nos collègues la connaissent. C'est-à-dire que quand ils travaillent dans certains quartiers, ils travaillent en insécurité totale. Et quand j'entends, effectivement, les discours qui viennent des tenues, j'ai l'impression qu'en fait, si vous voulez, la police provoque quelque part par rapport à son comportement, elle provoque des réactions. Or, je veux dire, la police et les policiers ne sont pas les seules personnes qui sont agressées dans les quartiers populaires. Enfin, dits populaires, parce que quand vous prenez, par exemple, le nombre de sapeurs-pompiers aujourd'hui qui interviennent, en fait, pour sauver... uniquement et qui interviennent, qui sont là pour secourir les personnes des quartiers. Quand vous voyez des médecins qui ne veulent plus intervenir dans un certain nombre de quartiers, il faut s'interroger. Les médecins, les pompiers ne contrôlent pas, ne tutoient pas. Ils interviennent uniquement pour secourir et souvent d'ailleurs sur appel et sur des demandes, en fait sur des réquisitions. Donc c'est vrai que là, je pense qu'il faut prendre en compte un certain nombre de choses. C'est que d'abord le statut social du policier, mais pas que du policier, du professeur, de l'instituteur, bref, a régressé au fil des années, qu'il n'y a plus le respect qui est dû à la fonction. Aujourd'hui, un policier ne peut pas se promener en tenue panachée, c'est-à-dire avec une partie de son uniforme et un blouson civil, par exemple, en prenant le bus sans se faire, très souvent en tout cas, sans se faire interpeller et montrer du doigt. Donc, je veux dire, ce manque de respect qui est dû à l'institution, c'est bien une réalité. Pourquoi ? Je veux dire, et là-dessus, il faut effectivement s'interroger. Le policier, il provoque tout le monde ? Non. Les policiers ne sont pas des fachos. Les policiers, ils interviennent dans les quartiers. Nos collègues, en tout cas, sont issus de milieux populaires, pour la plupart, de classes moyennes, pour la plupart. Ils sont de diversités totalement différentes, pour la plupart, avec des cultures, des cultes qui sont totalement différents. Et pour autant, ils rencontrent les mêmes difficultés dans les quartiers. Donc, il faut quand même s'interroger sur le fond du problème. Comment ces collègues qui sont issus, pour certains d'ailleurs, de quartiers populaires, rencontrent également ces mêmes difficultés. Donc, je pense que là, véritablement, le problème qui est dû à la fonction, il y a aussi ce problème aussi, je pense, il faut l'aborder, de réponse pénale qui, depuis un certain nombre d'années, n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque infraction, pour des coups blessures, bref, pour des actes d'atteinte aux biens, des vols ou autres, je veux dire, vous avez des quantums en fait, de peines, mais qui sont prononcés, mais qui ne sont pas appliqués. Ça veut dire qu'en fait, quand vous interpellez un primo-délinquant pour une interpellation, sur un vol de véhicule, par exemple, et que derrière, finalement, ça va être un rappel à la loi en disant attention, ne recommencez pas, c'est pas bien ce que vous avez fait. Le rodéo que vous avez commis, vous avez fait, effectivement failli renverser deux ou trois personnes, tuer peut-être ou blesser des gens, mais pour autant, voilà, ne recommencez pas, ou alors ça sera une amende ou alors une peine qui ne sera en fait avec sursis, d'emprisonnement avec sursis, mais qui ne sera pas significative. Je pense que là aussi, il faut qu'on revoie un certain nombre de choses. Comme on dit, quand on casse un verre, on le paye. Et je veux dire, il faut montrer du doigt directement et immédiatement, en tout cas, quand des délits sont commis, il faut que derrière, je veux dire, il y ait des sanctions qui soient à la hauteur. On n'est pas pour le c'est tout le répressif, alors, mais il faut qu'il y ait des sanctions qui, en tout cas, soient percutantes suffisamment.
Michel Kokorev, je vais vous redonner la parole dans un instant. Alors, il y a des problèmes que subissent les policiers au quotidien dont vous avez parlé, mais on voit aussi que l'équipement des policiers a été amélioré. Le tir de LBD est devenu extrêmement courant. Alors, je n'ai plus les chiffres exactement sous les yeux, mais l'équipement des policiers est devenu de plus en plus important. Les moyens donnés à la police, sur certains aspects, sont là. En tout cas, on va renforcer le répressif, justement. Et pourtant, on a l'impression que les problèmes, ils sont toujours là. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer au-delà
notamment quand on parle de moyens, notamment, il y a des moyens de protection dont nos collègues sont équipés aujourd'hui. Et pour autant,
mais on
ne
voit pas
regarde...
d'abaissement des problèmes.
Et non, parce que quand on regarde d'ailleurs le nombre de policiers blessés... quand on regarde le nombre de policiers qui sont blessés en service, il est toujours à un niveau très, très élevé. On dépasse les 12 000 blessés par an. Je veux dire, notamment,
c'est un chiffre
on a
qui
eu...
en hausse,
qui est en hausse depuis des années. Quand on prend effectivement le phénomène des gilets jaunes que l'on a connu, mais également lors des lois travail, sur les lois retraite, vous avez des groupes de black bloc qui sont organisés, qui viennent uniquement pour en découdre et pour avoir manifesté, parce que je suis syndicaliste aussi, à l'UNSA Police, j'ai manifesté aux côtés de l'UNSA. Et on s'est retrouvé avec mes collègues, d'ailleurs, sur certains itinéraires sur lesquels on a eu des groupes de casseurs, alors qu'il n'y avait aucun policier, donc on ne pouvait pas dire que c'était la police qui provoquait, qui sont venus uniquement pour rendre des coups, soit avec une partie des manifestants, d'ailleurs qui ont eu affaire à des services d'ordre, même quelquefois de la CGT ou d'autres organisations syndicales, et qui s'en sont pris à des vitrines d'établissements bancaires, de salons de coiffure, de salons de divers commerces en tout cas. Et donc, véritablement, il y a cette violence qui est quand même présente dans notre société, il ne faut pas le nier. Qui est responsable de cette violence ? On ne peut pas dire que la police, quand même, soit responsable de la violence dans la société. Ça serait inverser les choses. Et nos collègues, très souvent, malgré tout, malgré les moyens qui sont donnés, travaillent très souvent en insécurité dans les quartiers.
Michel Kokorev.
Oui, je voulais juste répondre, mais rapidement, à Thierry Clerc sur trois points. Bon, vous dites que les policiers sont en insécurité totale. Bon, c'est intéressant comme discours, parce qu'effectivement, ça inverse complètement ce qui est vécu quand même par beaucoup de gens. Bon, mais la faute à qui, pour dire les choses en gros, les policiers, ils appliquent les directives et les politiques publiques qui leur demandent de faire du chiffre, c'est-à-dire de faire des infractions sur les stupéfiants et de faire des infractions sur les étrangers sans papier. Effectivement, on les envoie dans des ghettos, dans des zones de non-droit, si vous voulez. Bon, mais on les envoie au casse-pipe d'une certaine manière. Bon, du fait de politiques publiques qu'il est surplomb. Bon, alors la différence quand même avec les pompiers et les médecins, je suis désolé, c'est que quand même ils sont garants de l'autorité et de l'ordre public. Ça fait une grande différence. Bon, et pour le dire de façon plus imagée, mais peut-être de façon plus militante aussi, c'est la police, c'est le bras armé de l'État. Bon, donc ils n'ont pas du tout ces policiers le même statut que les autres personnes que vous citez. Bon, et puis juste sur quand même, enfin je suis désolé, mais la justice laxiste, je fais pas partie du syndicat de la magistrature, mais c'est faux. Vous savez très bien que c'est faux. Vous savez très bien que par ailleurs les tribunaux sont saturés, comme les prisons d'ailleurs sont saturées. Donc voilà, ce discours qui consiste à dire nous on fait le boulot, mais les juges ne suivent pas. Il ne correspond pas à la réalité. Il ne correspond pas à la réalité. Et je trouve que c'est un procès un peu facile, même si je ne suis pas magistrat.
Oui. Et
Mais je ne parle pas. Enfin, je veux dire, je ne renvoie pas la pierre aux magistrats. Les magistrats, ils font avec les moyens qu'on leur donne. Et je ne dis pas que les magistrats sont des laxistes. Et nous, on discute très souvent, d'ailleurs, avec nos collègues de l'Union syndicale des magistrats. Et je veux dire, on connaît leurs problèmes. Je ne parle pas du syndicat de la magistrature qui n'y a pas du tout la même vision des choses. Mais en tout cas, véritablement, il y a besoin, en tout cas, de moyens qui doivent être importants, en tout cas, pour l'ensemble de la police, pour l'ensemble de la justice. Vous savez, quand on discutait avec un de nos collègues qui nous parlait d'un jeune de 24 ans qui a été interpellé, 24 ans interpellation dans une tentative de cambriolage. Ce jeune de 24 ans, il avait 14 antécédents judiciaires. 14 antécédents judiciaires sur des cambriolages, notamment, et essentiellement, pour 10 d'entre eux. Ça veut dire qu'il faut quand même s'interroger sur la réponse pénale qui est donnée.
Et est-ce que la réponse n'est pas aussi qu'elle devrait être aussi autre chose que du pénal, ce qui n'est pas un problème pédagogique aussi,
mais on est d'accord, mais bien sûr, mais tout à fait, mais la sécurité, c'est un problème global, bien sûr. Moi, je parle en tant que policier par rapport au métier qu'on fait, mais on l'a toujours dit, à l'UNSA Police, on dit toujours, la sécurité, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des familles, c'est l'affaire des parents, c'est l'affaire de l'éducation aussi nationale, c'est aussi l'affaire des magistrats, des policiers qui sont sur le terrain, des élus locaux, qu'est-ce qu'on fait aussi pour les jeunes, pour aider la jeunesse dans les quartiers, pour aider les clubs sportifs, les rencontres musicales et autres, enfin tous les événements, tout ce qui est culturel, tout ce qui peut intéresser les gens en fait à faire autre chose que rentrer dans la délinquance.
Mmh. 17h50 en temps universel, peut-on sortir du tout répressif? C'est le thème du débat du jour de ce jeudi avec nos deux invités, Michel Kokoreff, sociologue à l'Université Paris 8, Thierry Clerc, secrétaire général du syndicat UNSA Police. Alors on a commencé à faire un tableau de la manière dont vous percevez la situation du maintien de l'ordre en France. Au niveau européen, il y a quelques années le projet Godiac, une réflexion menée par les polices de plusieurs pays pour élaborer des doctrines de désescalade, justement. Alors, ça avait commencé notamment après la mort d'un manifestant contre le G7 à Gênes en 2001. La France n'a pas participé à ce projet. Michel Kokoreff, est-ce que c'est une erreur?
Écoutez, ça posait la question à Thierry Clerc. Moi, je ne suis pas là pour juger des décisions du gouvernement. Ce que je constate, c'est qu'effectivement... Alors, c'est étrange, d'ailleurs, que ce soit sur les doctrines en matière de sécurité, en matière de maintien de l'ordre, ou que ce soit sur la question la régulation du trafic de stupéfiants, la France fait cavalier seul. Hein. Mmh. C'est-à-dire que, et dans un cas, elle reste arc-boutée à sa fameuse doctrine, qu'elle a bien vendue, d'ailleurs, dans le monde... qui est plutôt une doctrine d'escalade qui met le feu aux poudres. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Mais en matière de régulation des trafics de stupéfiants, les Allemands ont légalisé. Il y a la moitié des États américains qui ont légalisé. Je ne dis pas que c'est la solution idéale et qu'elle règle tous les problèmes. Le Canada aussi. Mais ce que je constate, c'est que là aussi, en la matière, la société française fait un peu cavalier seul. Bon. Alors, sans doute que... on tourne un peu en rond dans notre débat si on considère les choses d'un point de vue strictement policier et si on ne considère pas, notamment dans les quartiers populaires, que le problème, il est social, qu'il y a une accumulation des problèmes sociaux, de chômage, de précarité, parler des familles monoparentales, de la situation des femmes, plutôt que d'incriminer leur manque d'éducation à l'égard de leurs enfants. Bon, et ces problèmes sociaux sont absolument pas traités par les politiques de sécurité. Et donc, on a une espèce de vision du tout sécuritaire, je pourrais presque dire une autonomisation du tout sécuritaire, qui non seulement ne règle rien parce qu'il met le feu aux poudres, mais invisibilise les problèmes sociaux. Hein, et je dis pas ça pour trouver des excuses aux délinquants, parce que c'est souvent ce qu'on argumente aux sociologues ou ceux qui utilisent cet argument, hein, mais parce que je dis que ce sont les causes profondes. Donc si on ne traite pas les causes profondes, les effets reviendra. Si on ne règle pas le problème de l'hostilité, notamment dans les quartiers populaires, et un certain nombre de déviances policières, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, si on a des drames, comme ça a été le cas du jeune Naël Merzouk en 2023, eh bien, les émeutes se répéteront. Bon, et on redira les mêmes choses. Et on reviendra faire la même émission dans un an. Bon. Et donc, ce qui est frappant, c'est cette espèce de myopie. Bon, et peut-être que j'anticipe un peu la fin du débat, mais je ne suis pas complètement sûr que le discours autoritaire, sécuritaire qui est mené par la droite extrême ou l'extrême droite, au fond, trouverait une alternative de vraies possibilités de sortie dans les formations de gauche. Hein. Bon, on verra. Bon. Mais évidemment, ça ne pousse pas à beaucoup d'optimisme.
Thierry Clerc, je vous vois prendre énormément de notes. Il y a beaucoup de choses à dire.
Il y a quelques points qui m'interpellent. En fait, le policier, qu'est-ce qu'il est? Il est acteur ou spectateur de la sécurité? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand vous parlez de l'affaire Naël, c'est un jeune qui, avec une voiture de plus de 400 chevaux, je veux dire, était à deux doigts de renverser, de tuer des personnes, des piétons sur la rue. Voilà, ce jeune, malheureusement...
Et a été tué à bout portant.
Malheureusement, il a été... effectivement, il a été tué. Mais quoi qu'il en soit, lui-même, et on connaît beaucoup d'autres affaires, et là, vous n'en parlez pas, pour lesquelles, en tout cas, des jeunes qui effectuaient du rodéo ont tué des piétons, ont tué des automobilistes, ont tué des enfants, des pères ou des mères de famille. C'est une réalité.
Alors,
donc, je veux dire, on
n'est
pas là pour s'opposer, c'est pour ça. Prendre l'affaire Nahel, je trouve que c'est vraiment réducteur et c'est vraiment dire voilà, la police.
En gros, c'est un peu le discours.
Excusez-moi. Non, mais excusez-moi, oui, ça voudrait dire un peu le discours à les filles, la police tue. Non, la police, elle tue pas.
Elle a suscité une forte émotion, cette affaire.
Mais la police, forcément, quand elle intervient, on est policier, acteur. Quand vous arrivez sur une situation qui est une situation tendue, sur laquelle vous avez un véhicule qui commet du rodéo, qui roule, qui prend des risques inconsidérés, qui va quasiment... moi, vous savez, ça fait des années que je ne suis plus sur la... Quelques années que je ne suis plus sur la voie publique.
Mais si justement on prend un autre exemple que les rodéos urbains, si on prend par exemple la gestion des manifestations, qui est quelque chose où la doctrine policière a beaucoup changé au cours des 10-20 dernières années. Il y a quelques années, c'était assez exceptionnel de voir des gens blessés par un tir de LBD. Maintenant, ça devient... pas la norme. Heureusement que ce n'est pas la norme. Mais ça devient quelque chose de beaucoup plus courant.
Non, parce qu'en fait, il y a eu cette période des Gilets jaunes où il y a eu
énormément
de nombreuses blessures, mais il y a eu des événements qui étaient des événements continus, tous les samedis, tous les dimanches, quelquefois en période dans la semaine, sur les jours fériés. Vous aviez des rassemblements sporadiques qui n'étaient pas du tout organisés comme les manifestations le sont. Et donc, vous aviez, ça partait un peu dans tous les sens, vous aviez des gens qui étaient
donc,
violents, vous aviez
des mains arrachées,
donc, il y a eu des utilisations. Voilà, attendez, il y a eu des gens qui ont récupéré des grenades au sol, qui leur ont explosé dans les mains.
Des
grenades lacrymogènes qui venaient d'être lancées. Et donc, je veux dire, il y a le moment entre la détonation et le moment du lancement. Voilà, donc il y a eu effectivement, de toute façon, dans le cadre, si on parle de manifestation, il n'y a jamais de belles images, il n'y a jamais de belles choses qui se passent. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société où ces phénomènes-là ne sont pas exceptionnels, je dirais, ils deviennent malheureusement habituels. Et c'est là-dessus où on doit se pencher. Est-ce que le fait que cette violence existe et perdure, elle vient de la police? C'est franchement...
Mais il y a des pays qui ont d'autres modèles de police, justement. Par exemple, en Allemagne, où on a installé par exemple des panneaux en marge des manifestations, où la police peut communiquer en disant « là, on va charger parce qu'il y a un souci dans le cortège ». Est-ce qu'on
ne
peut pas s'en inspirer?
Non, mais il faut prendre en
compte... Parce qu'il y a moins de violence,
mais il y a beaucoup moins de manifestations. Il y a beaucoup moins de manifestations de voie publique. La manifestation, chez nous, en France, c'est quelque chose d'habituel qui est ancré dans notre société. Les manifestations...
On va devoir conclure, je vais juste donner la parole, finissez votre phrase.
Les manifestations dans d'autres pays européens, quand vous voyez le nombre de manifestations qu'on peut avoir à Paris, sur la capitale, systématiquement chaque semaine, ça n'a rien à voir avec le nombre de manifestations que vous pouvez avoir à Berlin, ou à Londres, ou dans d'autres capitales européennes. Donc c'est vrai que la culture de la manifestation chez nous, elle est véritablement installée. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des groupes de jeunes casseurs qui rentrent dans le cadre de ces manifestations, systématiquement, et de façon, qui ne sont plus exceptionnelles.
Michel Kokourev, très rapidement,
un mot de conclusion. C'est un peu désolant d'entendre, je suis désolé, ces mots, parce que c'est vraiment la culture du déni, quoi. Vous ne voulez pas voir la réalité. Moi, ce que je constate, et encore une fois, ce n'est pas moi personnellement, mais c'est vraiment un constat qui est fait de façon très, très large, c'est que, notamment par des chercheurs, mais pas que par des chercheurs, c'est que l'institution policière ne peut pas et ne veut pas changer. Elle maintient le statu quo. Et pourquoi elle maintient le statu quo? Parce que, d'une part, elle est sous la pression des syndicats de policiers majoritaires, je pèse mes mots, et d'autre part, elle est aussi... sous la pression d'une opinion publique qui est quand même formatée par les chaînes de désinformation continue. Bon. Et donc... prenons des dossiers sérieux, la formation, l'encadrement, parce qu'il y a un turnover qui ne facilite pas l'encadrement, la connaissance des terrains, la suppression de la loi de 2017, parce qu'on a vu que les tués...
On va vraiment devoir conclure, je suis désolé, Michel Kokourev, vraiment, je vous laisse encore 5 secondes.
À côté du discours du déni, il y a des vrais sujets. Est-ce qu'on veut les aborder ou pas?
Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci, Michel Kokourev, sociologue à l'Université Paris 8. On rappelle votre livre « Émeute » paru cette année aux éditions Anna Mauza. Merci à vous aussi, Thierry Clerc, secrétaire général de U syndicat UNSA Police. C'était le débat du jour préparé avec Florence Ponce, Hélène Avril à la technique. Dans quelques instants, ce sera le grand journal du soir de Christophe Paget. Puis dans une demi-heure, Afrique Soir, Sophie Pouzrat, bonsoir.
Bonsoir, Doane.
Quel est le programme?
Au sommet, on parlera de l'arrivée de la chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU pour la RDC à Goma, ville toujours aux mains de la FCM 23. Elle doit rencontrer notamment les des représentants du mouvement armé et c'est une rencontre attendue. On vous expliquera pourquoi dans notre dossier du soir. On parlera aussi de cette nouvelle enquête du consortium de journalistes Forbidden Stories, une enquête qui plonge dans les prisons secrètes du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali.
Merci beaucoup Sophie Pouzrad. On vous retrouve donc dans une demi-heure pour la première édition d'Afrique Soir. Et dans quelques instants, ce sera donc Christophe Paget qui vous présentera les informations internationales pour le grand journal du soir de RFI. Tous nos programmes, toutes nos éditions sont aussi à retrouver sur notre site www.rfi.fr.